VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydia Dakar, 13 heures à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Niger, au moins 2 soldats nigériens ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque de position de l'armée par Boko Haram dans le sud-est du pays. Et ce, une semaine après la reddition d'une trentaine de combattants nigériens de la secte islamique nigériane. Une dizaine de djihadistes ont été également tués lors des combats. Selon une télévision locale, l'attaque a visé samedi vers minuit, heure locale, des positions de l'armée nigérienne à Baroua, une localité de la région d'Ifa, à proximité de la frontière du Nigeria. Rappelons que dans un message de vœux à la nation samedi soir, le président nigérien Mahamadou Issoufou a lancé un appel à tous ceux qui se sont laissés entraîner dans la voie de l'égarement par Boko Haram à se ressaisir et déposer les armes. Pour un bilan de 2016 et les perspectives pour l'année qui commence au Niger, notre correspondant sur place, Abdoul Razak Idrissa, s'est tourné vers le professeur Issoufou Yahya de l'Université de Niamey pour un coup de projecteur.
Sur le plan politique d'abord, il faut s'attendre à ce que l'autorité du président de la République soit fortement contestée, que ce soit dans son camp ou du côté de la société civile et de l'opposition. Puisqu'il a dit ne plus se présenter au présidentiel, eh bien il faut que le parti essaie d'asseoir une autre autorité. Une guerre de succession semble avoir commencé et le président actuel du parti, M. Bazoum, est en train de poser des actes de nature à faire de lui le maître ou le futur maître de la situation. Donc, M. Bazoum est en train d'effacer M. Brice Irafeni, de l'évincer pour véritablement, puisque dans un régime semi-présidentiel, le Premier ministre est le chef de la majorité. Or, M. Brice n'est pas le chef de la majorité, le vrai chef c'est M. Bazoum. Je pense que peut-être ça sera la consécration pour lui sur le plan politique. Sur le plan social, tout dépendra de la mobilisation des ressources par le gouvernement. S'il n'arrive plus, comme ça a été le cas en octobre, novembre, décembre, à honorer les salaires en temps et en heure, je pense qu'il aura les syndicats, il aura surtout les enseignants. Et je pense qu'il y a déjà un trimestre de raté. Si jamais, à partir de février, vous savez, traditionnellement, c'est une montée de la contestation, on rate encore un autre trimestre, c'est l'année qui va malheureusement être compromise. Et ça, je crois qu'il aura la population, il aura les parents, il aura les élèves et étudiants. Et ça, je pense que ça peut être préjudiciable à la gouvernance actuelle. Maintenant, sur le plan sécuritaire, je pense qu'il faut s'attendre Boko Haram, quoi qu'on dise. Le Nigeria est monté en puissance. Il dit avoir pris la maîtrise de la possession même ou le contrôle de la forêt de Sambisa. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que les attaques aussi se déplacent puisque le centre de commandement et le centre même des opérations va se déplacer. Je pense qu'on va avoir des petites cellules autonomes quelque part, pourquoi pas sur le territoire nigérien, il faut s'attendre à cela. Et puis au Mali, avec les djihadistes, je pense qu'ils n'ont pas dit aussi leur dernier mot, il faut s'attendre à quelques attaques sporadiques et meurtrières aussi.
Voilà, c'était le professeur Issoufou Yahya de l'Université de Niamey, au micro de notre correspondant dans la capitale nigérienne, Abdoul Razak Idrissa. Le Mali organisera une conférence d'entente nationale en mars 2017. C'est ce qu'a annoncé le président Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion du Nouvel An. Le chef de l'État malien a souligné que l'une de ses priorités sera l'application de l'accord de paix signé en mai-juin 2015 dans son pays, qui continue d'être la proie d'attaques de groupes divers. Et puis en Gambie, le président Yahya Jammeh a accusé dans son discours de Nouvel An la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de lui déclarer la guerre. Et ce, après la décision de la CEDEAO de placer des forces militaires en état d'alerte pour le cas où il refuserait de quitter le pouvoir à la fin de son mandat le 19 janvier. Yaya Jammeh qui dit vouloir rester au pouvoir en dépit de sa défaite lors de l'élection présidentielle du 1er décembre, remportée par son rival Adama Barrow, a aussi promis de défendre la Gambie contre toute agression extérieure dans cette allocution diffusée par la télévision publique. Le président sortant avait initialement reconnu sa défaite avant de la contester quelques jours plus tard.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, l'accord signé par le gouvernement et l'opposition la veille du jour de l'an sous la médiation des évêques catholiques suscite une vague d'optimisme dans le pays après plusieurs mois de crise politique. L'accord prévoit notamment le départ du pouvoir du président Joseph Kabila d'ici à la fin 2017. Mais certains Congolais continuent d'être sceptiques au vu des expériences précédente. Timothée Donangmaï a joint à Louvain-la-Neuve en Belgique le professeur Patrick Bamba Dilelo, conseiller politique à la présidence de la coalition des Congolais pour la transition.
La CENCO a fait son travail, mais néanmoins, elle n'est pas allée au-delà des aspirations du peuple congolais, parce que j'explique pour ma part que Kabila est arrivé fin mandat. On doit le conjuguer au passé, mais je sais qu'il y a eu des concessions à faire pour qu'il reste encore pendant une année en fonction. Mais la Constitution ne le prévoit pas. Et donc, pour moi, Kabila, on vient le considérer comme ex-président et non comme président en exercice.
Ne vaut-il pas mieux un accord imparfait pour tenter de sortir le pays de la crise plutôt qu'une interminable querelle politique?
Il s'agit d'une crise artificielle, créée délibérément par les gens qui sont au pouvoir. Et que par conséquent, si nous devons suivre ces jeux-là, et nous jouons aussi le jeu, j'aurais voulu personnellement que Kabila arrive à son mandat le 19 décembre, il devait tout bonnement quitter le pouvoir et laisser la place aux autres. Il veut y demeurer jusque quand? Je suis presque convaincu, et je vous le dis, qu'après une année, même d'ici quelques jours encore, la majorité présidentielle va évoquer d'autres prétextes. Ils vont nous parler de référendum. Kabila ne veut pas partir. Il n'a pas envie de partir. Et il ne partira pas.
Le professeur Patrick Bamba Dilelo, conseiller politique à la présidence de la coalition des Congolais pour la transition. Il était joint en Belgique. On reste en Afrique centrale. C'est aujourd'hui que débute en principe à Paris le procès pour corruption de Théodorine Obiang Nguema, fils du président équato-guinéen et lui-même vice-président de la Guinée équatoriale. C'est le premier jugement en rapport avec l'affaire des biens mal acquis déclenché par les ONG Sherpa et l'ONG Transparency International. Nous retrouvons Timothée Donangmaï.
Il y a peu de chances que l'accusé se présente à la barre, mais on s'attend à ce qu'il plaide non coupable des chefs d'accusation de corruption, détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Il est reproché à Théodorine Obiang Nguema d'avoir accumulé en France et dans d'autres pays occidentaux hôtels particuliers, véhicules de luxe, œuvres d'art et vins fins, entre autres, un patrimoine valant plusieurs millions d'euros qu'il aurait acquis en détournant les fonds publics de son pays, accusation qu'il a toujours rejetée. Ce n'est que la première étape, a fait savoir Maître William Bourdon, président de l'association Sherpa et conseiller juridique de Transparency International. Ces deux ONG sont parties en croisade contre deux autres dirigeants africains accusés de s'enrichir sur le dos de leur pays, le président congolais Denis Sassou Nguesso et le défunt dirigeant gabonais Omar Bongo Ondimba. En septembre, la Guinée équatoriale avait saisi la Cour internationale de justice de la Haye pour demander la suspension des poursuites contre Théodorine Obiang Nguema, estimant que son immunité diplomatique avait été violée. Elle a obtenu la restitution d'un hôtel particulier de Paris, saisi dans le cadre de l'enquête en affirmant qu'il fait partie du domaine de sa mission diplomatique. Toutefois, la Cour internationale de justice avait indiqué n'avoir aucun moyen de bloquer l'action judiciaire engagée en France.
Somalie, un attentat suicide à la voiture piégée a visé ce lundi un barrage de sécurité érigé devant le siège de la mission de l'Union africaine dans le pays, la MISOM. C'est à Mogadiscio que l'attaque s'est produite et elle a fait 3 morts, a annoncé la police. 3 membres des forces de sécurité qui ont perdu la vie. Et puis en Turquie, le groupe État islamique a revendiqué également ce lundi l'attentat contre une discothèque d'Istanbul qui a fait 39 morts dans la nuit du Nouvel An et dont l'auteur reste en fuite. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.